RTL Original Podcast. La route des vins du Luxembourg.
Bonjour Franck Kaiser.
Bonjour Mathieu.
Comment tu vas?
Bah ça va.
Comme un lundi, c'est ça?
Comme un lundi, oui.
En ce moment, j'imagine qu'il y a un petit peu de travail. On a une saison qui est un petit peu particulière. Certains vignerons luxembourgeois ont eu des soucis dans la vigne. On a eu des gelées, par exemple, dans certains secteurs. Est-ce que toi, au niveau de ton secteur, tu as été touché par ces gelées? Et si c'est le cas, ça a été plutôt sévère ou ça reste raisonnable?
Oui, on a été touché, mais ça reste ici, aux alentours de Hainan, où on a un autre parcelle. Quand même, ça reste raisonnable. Il y a quelques dégâts, mais il y a d'autres endroits à la Moselle qui ont plus de dégâts que nous.
Alors, au sein de ce domaine, hein, Kaiser Kohl, donc vous avez pour habitude de cultiver des cépages qui sont traditionnels, qui sont classiques. On vend actuellement plutôt du millésime 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce millésime 2022? Est-ce qu'on peut déjà resituer un petit peu? Comment a été le climat? Et qu'est-ce qu'on a pu obtenir au niveau de ces vins?
Oui, 2022, une très bonne année, avec une bonne qualité, ce qui concerne au niveau sucre. Même en acidité, ce sont des vins bien équilibrés, beaucoup de structure. C'est pour ça qu'on a eu encore un peu en stock aussi. On a réembouteillé encore maintenant le 22 parce que ce sont vraiment des vins qui font plaisir.
Tu proposes un Riesling qui est un Riesling vieille vigne. Est-ce qu'on peut rappeler déjà le pouvoir de ces vieilles vignes par rapport à des vignes qui sont un peu plus classiques?
On dit toujours, avec leurs racines profondes, des pieds qui sont plus âgés, il y a des composants plus salés, pour l'expliquer un petit peu. Ils sont vraiment différents vis-à-vis d'un vignoble qui est beaucoup plus jeune. Il faut savoir aussi que la vieille vigne, qui est plantée en 49, pas toutes les plantes qui restent qui sont de 49, mais comme même la majorité, se trouvent dans des vieilles terrasses. Et là, il y a vraiment ce qu'on fait dans ce vignoble-là, c'est on doit faire tout à la main. Il n'y a pas de machine qu'on peut utiliser parce qu'on ne peut pas rentrer. Et oui, je dis toujours, c'est encore notre vignoble un peu nostalgique, ce qui est intéressant aussi.
C'est des vins qu'on arrive à faire vieillir. Hein. J'imagine là, tu proposes à la vente 3 millésimes, hein, ça va de 2020 à 2022.
Oui. Ce qui est très intéressant, maintenant, on n'a pas toujours maintenant 3 millésimes, pour le moment c'est le cas, et on voit vraiment maintenant un 2020 qui est, je trouve personnellement, vraiment super et sur un point de vieillissement où il est très très intéressant à boire. Et on voit aussi après le 21 et le 22 qui sont dans une certaine ligne. Si on les compare, on voit un peu, bon, le 21 il reste encore un peu plus frais, le 22 il est encore beaucoup plus frais, mais les notes et les niveaux du vin, ils se donnent une direction, comme on dit. On peut bien s'imaginer que le 2021 va prendre une direction comme le 2020 et le 22 aussi comme le 21. Il y a un suivi derrière, hein. Ça c'est très intéressant si on a la possibilité aussi de les comparer une fois.
Justement, toi en tant que vigneron, il t'arrive parfois de dire « Allez tiens, je vais ouvrir un vieux vin ». Tu essaies de constater un petit peu ces évolutions? Tu as des bonnes surprises parfois?
Oui, on essaye de le faire de temps en temps. Je dirais on ne le fait pas
assez, suffisamment.
Assez. Oui, on devrait se mettre vraiment chaque année deux cartons à côté. Mais bon, ça donne aussi un volume et... Bon, après, c'est vendu, on n'a pas fait attention.
Mais oui.
Bon, il reste toujours des choses qui sont un peu plus vieux. On les teste de temps en temps. Oui, parfois, c'est plus rien. Ça, il faut dire aussi. Ça dépend un peu des années aussi. Comment était l'année et la composition des vins. Il y a des différents paramètres qui jouent.
Hein. La dernière fois qu'on s'était croisés tous les deux en interview, on a eu l'occasion de parler de cette cuvée qui est donc la cuvée Fusion. Comment est-ce qu'elle a évolué, cette cuvée? Tu continues toujours à la proposer, hein, c'est ça, hein?
Oui, on a toujours dans le programme. C'est très intéressant. Bon, j'ai essayé maintenant actuellement, on est en 21. Le 2022, il reste encore en fût. Et bon, je vais dire, il ne faut pas la faire chaque année, mais on regarde de temps en temps de la refaire toujours, de la laisser vieillir aussi un peu en fût. Déjà, ça se prend aussi du temps.
Ouais, combien de temps concrètement? Ça dépend des années ou?
Oui, un an. Si on n'a pas besoin directement, on laisse vraiment vieillir un an ou plus. Ça dépend.
Et de l'assemblage, j'imagine que l'assemblage est amené à changer d'une année à l'autre aussi.
En principe, c'est la cuvée, ça se présente, c'est du chardonnay, du pinot blanc, la plupart, avec un peu de Gewürztraminer. Et ça, on essaye quand même de laisser toujours comme ça, disons que ça peut changer un minimum au pourcentage, mais bon, mais pour le reste, c'est... l'idée de la cuvée reste dans sa composition la même.
Tu proposes toi donc le pinot blanc, qui est une des spécialités de la maison, le pinot gris également en charta. Ce sont des millésimes 2020. Une charta peut-être à venir encore? Comment tu vois les choses, ou alors vraiment c'est quand l'occasion se présente?
La charta, c'est une bonne chose. On devrait être encore plusieurs qui vont faire des choses comme ça. Bon, ça dépend toujours des vignerons s'ils sont motivés ou non, parce qu'il y a quand même un peu plus de travail. Oui, actuellement on est en 2020 encore, mais pas pour longtemps. Après il y a le 22, les vins sont prêts à venir. On ne fait pas toujours. Si l'année donne pas assez, on ne va pas faire de la charta. Là, je suis rigoureux. Ça, il faut se dire aussi, si on n'a pas assez de grains pour faire des vins qui devrait être un peu plus extraordinaire, il ne faut pas le faire. Alors, en 21, on n'a pas fait, et en 23, on n'a pas fait du charta non plus.
On a pour habitude de faire toujours un gros plan dans le cadre de ce podcast de la Route des Vins du Luxembourg. On a choisi donc ce pinot gris en fût de chêne que tu nous as concocté déjà il y a quelques temps, qui n'est pas encore sorti, qui va sortir a priori fin d'année 2024. Allez, on veut tout savoir, on veut déjà savoir où se trouve un petit peu la parcelle, comment est-ce que tu prends soin de cette parcelle et comment est-ce que tu produis ce vin?
Ben, ce sont deux parcelles qu'on a choisies pour faire ça. Aussi, c'est le millésime de 22. On a trouvé que ça se présente relativement bien en grains et en matière. On a commencé à faire des bâtonnages au début, quelques fois par semaine. Après, on a réduit ça à une fois par semaine. Après, on a fait encore deux fois par mois pendant 4-5 mois. Et après, on a arrêté complètement. Ce qu'il faut savoir, le bâtonnage, ça va lui donner un peu plus de rondeur, un peu plus de structure encore, parce qu'on met la levure en suspension. Et avec la combinaison du fût de chêne, c'est un grand fût de chêne de 1200 litres, oui, ça donne quelque chose d'une certaine complexité. Et après, il faut donner un peu de temps. J'ai prévu de le sortir, oui, disons fin d'année.
Quand on est sur des produits comme ça, un petit peu exceptionnels, qu'on a tendance à laisser vieillir pas mal, je ne m'en rends pas compte, on est amené à goûter très souvent, ou alors on se met une croix dans le calendrier en se disant « bah tiens, je pense qu'à telle période, il devrait être pas mal ». Comment tu travailles?
Je les goûte de temps en temps. Ouais. En passant, maintenant, on les laisse un peu tranquilles. Et après, on se dit, maintenant, je dois quand même regarder une fois ou goûter une fois dans quelle direction ça se dirige.
Ouais.
Faut toujours aussi avoir un clin d'œil dessus, si tous les paramètres sont corrects et il n'y a pas de déviation qui peut venir. Mais en principe, oui, moi, je dis... C'est pas à chaque jour, hein, pas à chaque semaine, mais deux, trois fois par mois.
Oui, on sent de toute façon, si à un moment donné on a une évolution qui est vouée à être négative, c'est quelque chose qu'on sent assez rapidement.
De toute façon, on a aussi notre un œnologue qui travaille pour les vignerons indépendants, qui nous donne un coup de main si on a un problème, ou qui passe de temps en temps aussi pour goûter une fois, pour avoir un autre avis. Et comme ça, on est... Bon, pas protégé, mais...
Rassuré. Peut-être.
Oui. Ouais, qui suit un peu les choses aussi.
J'aimerais qu'on parle un petit peu des plantations, parce qu'en fait, finalement, le vigneron est amené à faire son travail de vigneron, de récoltant, mais il vous arrive aussi parfois de planter. Alors, c'est quoi? Ce sont des vignes qu'on arrache? On part sur des terres qui sont vierges? Qu'est-ce qui s'est passé cette année 2024 en termes de plantation dans ton établissement?
On a replanté une parcelle de 50 hectares, on a arraché un vieil vignoble. C'était fini en principe, on pourrait dire.
Fin de vie, oui.
Voilà, et on a arraché 50 arbres et on a replanté du Chardonnay et du Saint-Laurent sur cette parcelle.
Quand c'est comme ça, on arrache la même année, on replante la même année, il n'y a pas de...
Oui, ouais. On a arraché l'année passée, après les vendanges, on a arraché la vigne, on a la replanté maintenant mi-mai. Cette année.
J'aimerais que tu me parles de ce fameux cépage, le Saint-Laurent, c'est un rouge. Est-ce que la demande de rouge est de plus en plus importante au Luxembourg? Je te pose cette question oui. Parce que j'ai l'impression que la qualité est de plus en plus au rendez-vous. Est-ce que ça se ressent aussi sur la commercialisation?
Oui, tout à fait. En général, je dirais qu'il y a plus de rouge qui se vend maintenant dans les vins luxembourgeois. Savoir qu'on a juste le Pinot Noir ou le Saint-Laurent, on voit à gauche et à droite maintenant un peu du Merlot déjà. Qui marche aussi ici au Luxembourg, on peut bien planter ça. Ce qu'on a prévu pour l'année prochaine, aussi de faire une parcelle avec du Merlot. Et après, il faut regarder si on fait un monocépage ou on travaille plus sur une cuvée avec les trois cépages. Ça, il faut voir. On peut encore réfléchir là-dessus, comment on va le faire. Mais effectivement, il y a aussi d'autres vignerons qui me disent que les ventes en rouge, ça monte. Et effectivement, comme tu as dit, je pense qu'on a aussi fait des gros progrès dans la vinification dans les rouges. On ne peut plus le comparer avec les rouges qu'on a eu il y a 15 ans ou 20 ans. Ça joue et aussi le temps qui a changé un petit peu. Pour les rouges, c'est bien.
C'est marrant parce que toi, quand tu as appris le métier, tu as vinifié en blanc essentiellement. Est-ce qu'on peut dire que la vinification en rouge, tu l'as appris un petit peu plus sur le tas ou alors c'était quelque chose d'acquis dès le départ malgré le fait que tu en produisais pas plus que ça?
Ouais, même quand j'ai commencé, on a eu déjà le Pinot Noir, on a déjà produit des rouges. Si on a une année qui est juste moyen, on a des difficultés de faire un grand rouge. On peut toujours faire les choses correctes. Peut-être c'est aussi là de voir un peu avoir des stocks ou de faire dans une année qui prévoit maintenant une très bonne qualité en rouge, de faire un peu plus de rouge pour l'avoir encore une année de plus, hein. ou mettre, je sais pas, 1000 litres à côté et de prendre ces 1000 litres pour l'année prochaine.
Et c'est parfois la surprise.
Oui, tout à fait. Et on peut jamais le dire comment ça. On peut dire que ça donne une bonne qualité si on a les raisins qu'on a récoltés, on le voit, et on a les vins dans la cave. Avant, on peut pas le... Même si en début d'août, il y a beaucoup de raisins et ça c'est tout bien. On a vu ça l'année passée. Oui, ça c'est bien, il y a beaucoup de raisins, c'est tout bon, il n'y a pas de pourriture, rien du tout. Bon, 4 semaines plus tard, c'était très différent, je dirais.
Ouais, quand il se met à pleuvoir, ouais. c'est la course, hein, comme on dit. Ça, hein. C'est la course. Pour terminer, Frank Kaiser, je vais te demander juste de me parler de ton vin préféré. T'as bien un vin préféré dans cette cave? Bon, après, je sais, tu les aimes tous, c'est toi qui les fais.
Un grand favori, on peut pas le dire. Ça, il faut demander à ma belle-mère, comme ça, elle va directement répondre le Pinot Blanc.
En général, c'est ce qu'elle répond.
Je ne peux pas dire que j'ai vraiment une préférence pour juste celui-là. Ça dépend un peu des jours.
Des jours et des saisons.
Voilà, de toute façon.
Bon, en tout cas, on a une très belle panoplie.
Oui.
Merci beaucoup à Frank Kaiser. Donc, on le rappelle, on a l'occasion de venir découvrir ces vins ici dans ton domaine, Kaiser Kohl, qui est donc situé à Hennen, avec cette petite vinothèque toujours très intéressante. On a la possibilité de déguster ici, hein. On peut déguster les vins.
Oui, bien sûr. En principe, sur rendez-vous ou maintenant pendant la saison. Là, on peut venir aussi juste boire un coup et de toute façon aussi goûter.
Et toujours cette possibilité aussi de commander en ligne directement sur le site internet, hein, www.kaiser-kohl.lu. Merci beaucoup, Frank Kaiser, de nous avoir accueillis ici au sein de ton domaine et d'avoir participé une fois de plus à cette route des vins du Luxembourg. À très bientôt.
Très, très bientôt. Merci à toi.
Salut, Franck.
Salut.
La route des vins du Luxembourg.